Du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Dans l'explication du catéchisme du Concile de Trente, nous en sommes rendus à la septième demande. Délivrez-nous du mal, libéranos a malo. Cette demande, dit le catéchisme, est comme le résumé et la résultante de toute la prière du Pater. Notre Seigneur lui-même, dans sa prière sacerdotale, juste avant sa passion, s'adresse à son Père en disant « Je vous prie de les délivrer du mal ». Et saint Cyprien a expliqué que cette demande renferme en quelque sorte toutes les autres demandes, parce que quand nous avons obtenu ce que contient cette demande, nous n'avons plus rien à demander, en ce sens que nous sommes assurés de la protection de Dieu. Quand Dieu écarte de nous le mal, le vrai mal, eh bien, cela veut dire qu'il nous protège, qu'il nous garde, et donc nous pouvons rester en sécurité. Vous noterez que la cinquième et sixième demande traitaient du péché. Dans la cinquième demande, nous demandions à Dieu de nous pardonner nos offenses, nos péchés. Et dans la sixième demande, nous demandions à Dieu de ne pas succomber à la tentation qui mène au péché. Donc le péché est la cause du péché. Et dans cette septième demande, il est question non plus du péché lui-même, mais de la peine qui résulte du péché. Délivrez-nous du mal. Les maux, c'est la conséquence du péché, c'est le châtiment du péché. Donc nous demandons à Dieu d'être délivré de ce qui est la conséquence de nos péchés. Le catéchisme sur cette demande s'exprime en cinq parties. Tout d'abord, le catéchisme explique comment doit-on demander d'être délivré du mal. Et c'est très important de le comprendre. Ensuite, le catéchisme explique le sens et l'objet de cette demande, c'est-à-dire quels sont les maux pour lesquels nous demandons la délivrance. Et puis ensuite, le catéchisme explique comment Dieu nous délivre du mal. Il y a plusieurs manières par lesquelles Dieu nous délivre du mal. Et puis enfin, le catéchisme explique que le mal, c'est pas simplement les maux, c'est aussi le malin, le diable. Et enfin, il nous encourage à la patience nécessaire dans tous nos maux. Alors disons d'abord, comment doit-on demander d'être délivré du mal? C'est important de bien le comprendre. Le mal, tous nous le subissons, tous nous devons supporter des maux ici-bas. Nous souffrons de diverses tribulations, des chagrins, des peines, c'est le lot de la vie humaine, donc nous le savons bien. D'où il nous est tout à fait naturel de demander à Dieu d'être délivré de ces maux, parce que précisément nous en souffrons. Ces maux nous accablent, alors naturellement nous recourons à Dieu à l'heure de l'épreuve. Rien ne porte plus les hommes à la prière que les maux, que les tribulations. On le voit d'ailleurs par expérience, à chaque fois qu'il y a une catastrophe, les églises se remplissent. Et puis quand la catastrophe est passée, quand la prospérité est revenue, les églises se vident à nouveau. D'où la nécessité, explique le catéchisme, de comprendre comment faire dignement cette demande, comment demander à Dieu d'être délivré du mal. Il ne faut pas le faire simplement parce que nous sommes accablés. Il faut que ce soit une vraie prière. Il ne faut pas renverser l'ordre établi par notre Seigneur Jésus-Christ. Cette septième demande, elle vient en septième lieu. Il y a eu les six demandes préalables. Et il ne faut pas que cette septième demande passe au premier plan. C'est celle qui vient en dernier. Avant de prier Dieu de nous délivrer du mal, notre Seigneur nous oblige à demander que son nom soit sanctifié, que son règne arrive, que sa volonté soit faite, etc. Et toutes ces demandes passent d'abord, et il est important de les faire avant de demander la délivrance de nos maux. Ainsi, nous serons sûrs de demander la délivrance de nos maux dans l'esprit que Dieu veut, sans fausser les choses et sans faire de notre prière quelque chose d'intéressé, qui manquerait de pureté d'intention. Nous avons tendance à faire passer en premier cette demande et nous oublions toutes les autres. Nous ne comprenons pas que les demandes du Pater sont comme autant de degrés pour arriver à Dieu. Et quand on monte un escalier, on monte marche par marche. On ne commence pas par la marche la plus haute ou la plus basse si on redescend l'escalier. Et cette attitude qui consisterait à vouloir prendre Dieu un petit peu comme une corne d'abondance à notre service en quelque sorte, cette attitude s'opposerait au précepte de notre Seigneur qui dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et tout le reste vous sera donné par surcroît ». Donc il faut chercher d'abord le royaume de Dieu, c'est-à-dire sanctifier son nom, demander que son règne arrive, que sa volonté soit faite, etc. Sinon, notre prière serait intéressée. Et il faut bien avouer que c'est un petit peu notre tendance. Dès que nous avons un petit bobo, un petit malheur, eh bien, nous prenons d'assaut le ciel et il faudrait que Dieu se mette tout de suite à notre service et cède à nos caprices, ce qui est un désordre, évidemment. Donc le catéchisme a bien raison de nous expliquer d'abord, avant même de nous dire quels sont les maux dont nous demandons d'être délivrés, de nous expliquer dans quel esprit il faut faire cette demande. En d'autres termes, pour bien prier, il faut tout rapporter à la gloire de Dieu. Et c'est la différence, explique le catéchisme, entre la prière des infidèles et la prière des chrétiens. Car les infidèles, à leur manière, prient aussi. Ils prient leur faux Dieu. Ce ne sont pas de vraies prières. Mais ils demandent, et ils sont capables de demander avec beaucoup d'ardeur. Mais ils demandent des choses qui ne sont pas bonnes. Et ils les demandent en s'appuyant sur des moyens qui souvent sont des moyens immoraux ou malhonnêtes. Ils demandent d'être délivrés de leurs maux, de tous ces maux qui les accablent, ou de ce qu'ils estiment être des maux et qui n'en sont pas. Par exemple, dans le Coran, les musulmans demandent l'extermination des chrétiens. Il est évident que ce n'est pas un mal que d'être chrétien, tout au contraire. Et ces païens n'hésitent pas à recourir à des moyens mauvais pour obtenir l'objet de leurs demandes. Des sortilèges, la magie, l'intervention du démon, dans les fausses religions, tout cela existe. Leur prière n'est pas incompatible avec le péché. C'est donc pas une vraie prière. Pour le chrétien, au contraire, Dieu est le principal refuge et même le seul soutien sur lequel il s'appuie. Les chrétiens adorent Dieu. Ils le reconnaissent comme l'auteur de tout bien. Et donc, en le priant, ils s'abandonnent à lui. Ils sont confiants. Bien sûr qu'ils ne dédaignent pas d'employer les moyens humains. Par exemple, dans les maladies, tous, nous allons voir le médecin, nous demandons des remèdes. Mais nous ne mettons pas dans ces remèdes le principal espoir de guérison. Nous sommes confiants, ou du moins nous essayons de l'être, il faut l'être, confiants dans la miséricorde de Dieu. Nous mettons toute notre confiance en Dieu et notre demande de guérison ou autre, de délivrance d'une manière générale, reste conditionnelle. Bien sûr, nous avons l'espérance d'être exaucés, mais comme Dieu voudra, nous n'imposons pas à Dieu nos caprices. C'est très important de le comprendre. Alors, une fois que nous avons bien compris cela, nous pouvons détailler les maux dont nous demandons à Dieu d'être délivrés. Quels sont ces maux? Quel est le sens et l'objet de cette demande? Il faut d'abord bien dire que nous ne demandons pas à être absolument délivrés de tout mal, car certaines choses qui sont regardées par les hommes comme des maux n'en sont pas et sont au contraire très utiles à nos âmes pour les purifier, pour les affermir dans la vertu. S'il n'y avait jamais d'épreuve, nous ne pourrions pas grandir en vertu. Donc beaucoup de nos maux ont de très grands avantages et il faut bien voir ces avantages. Nous demandons donc dans cette demande à Dieu de conjurer les maux qui sont sans profit pour nos âmes, qui sont nuisibles à nos âmes, soit par leur nature, soit par leur intensité. Par exemple, une trop grande misère mène à la révolte envers Dieu. Donc, il est bon de demander de ne pas être dans une trop grande misère. Ou encore des maux nuisibles à notre âme du fait des circonstances ou du fait de leurs effets. Alors, ces maux, nous en trouvons la liste, notamment dans la litanie des saints, les litanies des saints. Vous les connaissez puisque nous les chantons chaque année pendant la nuit pascale ou encore au moment des rogations. Et dans ces litanies, vous savez qu'il y a toute une partie des litanies où nous demandons à Dieu d'être libérés, libéranos. Et ce dont nous demandons d'être libérés, c'est précisément des maux qui sont intérieurs ou extérieurs, qui sont d'ordre moral ou d'ordre physique. Et il est bon de reprendre cette petite liste. L'Église dans sa sagesse, comme une vraie mère, nous indique tout ce qui est véritablement un mal. Et en lisant ces choses, en les comprenant, en les priant, cela évite de considérer comme mal des choses qui n'en sont pas. Que l'Église nous dit-elle ? Elle nous demande de prier Dieu pour être libérés de la damnation éternelle. Ça, c'est le mal suprême, la damnation éternelle. Et même l'Église nous demande d'être délivrés du feu du purgatoire, c'est-à-dire de faire en sorte que nous n'allions pas au purgatoire, que nous puissions mourir de telle sorte que nous allions directement au ciel. Il est mieux de faire son purgatoire sur terre. Ici-bas, c'est le temps de la miséricorde. Après, c'est le temps de la justice, de la rigueur. Nous demandons encore dans ces litanies d'être délivrés de la mort subite et imprévue. C'est un grand mal, ça. Dans le monde moderne, on considère au contraire qu'il est meilleur de ne pas réaliser que nous sommes en train de mourir. On cache la mort aux gens. C'est le pire des services que l'on puisse leur rendre. Il faut préparer sa mort. Et donc la mort subite et imprévue, c'est un mal. On demande encore d'être délivré du péril prochain du péché, les occasions de péché. On demande encore d'être délivré des infestations démoniaques ou de toutes les causes d'iniquité et de crime, les impuretés, toute cette ambiance délétère dans laquelle nous vivons aujourd'hui, tout ce monde très impur, les méchancetés, les haines, tout ce qui mène à l'aveuglement du cœur, l'erreur, le libéralisme, les mauvais exemples ambiants ou diffusés, toutes ces manipulations des esprits, ces campagnes d'opinion, ce matraquage médiatique qui fait beaucoup de mal, que d'âmes se perdent à cause de ça. Donc tout ça, ce sont des désordres moraux, des maux moraux. Et puis il y a aussi des désordres ou des maux qui sont d'ordre physique. L'Église nous fait prier pour ne pas être accablé par la peste ou par les épidémies, par la famine. Vous savez que dans l'ancien temps, quand les récoltes étaient mauvaises, pour la population, c'était une catastrophe. Cela entraînait des famines considérables. La guerre, le mal de la guerre, avec tout ce qui l'accompagne, la haine, les exils, les exodes, les cruautés, les persécutions, les trahisons, les tueries, les impuretés. La guerre a tout un cortège abominable qui l'accompagne. C'est un mal tout cela. Les séismes, qui sont souvent des châtiments de Dieu, alors les chrétiens demandent pour en être préservés. On pourrait faire des applications si on considère notre monde moderne. Quels sont les maux d'aujourd'hui ? L'Église, quand elle nous indique tous ces maux, les indique forcément d'une manière assez générale, générique. Mais si on applique ça à notre temps d'aujourd'hui, quels sont les maux qui nous accablent ? Les vrais maux, c'est le règne des méchants, le règne du vice et de l'erreur. Alors on peut détailler les gouvernements athées. Un gouvernement athée, c'est une catastrophe. Beaucoup d'âmes vont se perdre à cause de ça. La domination de la franc-maçonnerie ou des puissances occultes, est-ce que nous prions pour demander d'être délivrés de ces maux-là ? C'est important, beaucoup plus important que d'être délivrés d'un petit rhume ou d'une petite difficulté qui nous accable temporairement. Le règne de la finance internationale, la patrie des mondialistes, que d'âmes aussi se perdent à cause de ça ? Nous sommes gouvernés aujourd'hui par des puissances maléfiques. L'extension des fausses religions, des sectes. Quand on pense qu'aujourd'hui, en Amérique latine, par exemple, le fait de la liberté religieuse fait que plus de 60 millions d'âmes catholiques ont quitté la foi catholique pour s'adonner à des sectes. Où ces âmes vont-elles aller pour l'éternité ? L'école laïque, ça encore, c'est un grand mal. Que d'enfants perdent leur âme et apprennent des choses mauvaises, des erreurs et des cochonneries du fait de l'école laïque. Les lois antichrétiennes, toutes ces dernières années, on a beaucoup parlé des lois contre la famille, mais il n'y a pas que celle-là. En ce moment, l'actualité nous montre comme le monde moderne fait l'apologie du blasphème. Ce blasphème, c'est gravissime. C'est un des péchés qui réclame le plus vengeance auprès de Dieu. L'invasion de la pornographie, le mensonge. Nous vivons dans un monde où le mensonge est universellement répandu. Est-ce que nous prions pour demander que ce mensonge régresse, que la vérité règne, le mensonge dans les médias, le mensonge dans l'Église, le mensonge dans la bouche des responsables. La crise dans l'Église, ça c'est un mal. Est-ce que nous prions pour que ce mal soit éradiqué? L'occupation de l'Église par la secte conciliaire, la perte de la foi, l'hérésie, toutes ces choses que nous dénonçons régulièrement, la liberté religieuse, l'œcuménisme, la collégialité, la nouvelle ecclésiologie, tout ça, ce sont des mots terribles. Beaucoup d'âmes se perdent à cause de ça. La foi n'est plus enseignée. Il y a un recul de la véritable évangélisation. Il n'y a plus de missionnaires aujourd'hui dans le monde. Ou les missionnaires, ce sont les missionnaires des droits de l'homme. La persécution de l'Église. Il y a encore beaucoup de pays où les chrétiens sont persécutés aujourd'hui physiquement. Et puis il y a la persécution morale, jusque dans nos pays, cette persécution insidieuse qui fait que les âmes, petit à petit, perdent la foi. La disparition de la vie religieuse, la décadence des familles chrétiennes, contaminées de plus en plus par l'esprit du monde, jusque dans nos milieux, il ne faut pas se faire d'illusions. La disparition des mœurs chrétiennes, et peut-être le pire, c'est Saint Pie X lui-même qui le disait, la faiblesse et la lâcheté des bons. Ça, c'est un grand mal. Quand les bons ne réagissent plus, se laissent gagner par la contamination générale et petit à petit cèdent eux-mêmes au mal. Ça, c'est terrible. Les mauvais chefs, c'est un grand mal. Ça, faut prier pour avoir de bons chefs. On a les chefs qu'on mérite. Le mauvais pape, c'est un mal, ça. Le fait d'avoir un pape qui ne défend pas l'Église et qui ne tient pas son rôle. Il faut prier pour être délivré de ça. Délivrez-nous du mal. C'est bien plus ravageur, tous ces maux, qu'une simple maladie ou qu'un revers de fortune, si pénibles soient ces choses. Mais voyez comme on a tendance de voir souvent la délivrance du mal comme étant uniquement le mal qui nous affecte personnellement. Il faut là étendre notre prière aux grandes intentions qui sont celles de l'Église. Le catéchisme ne se contente pas de dire que dans cette demande, nous demandons le fait que les maux ne nous accablent pas. Le catéchisme ajoute que non seulement il faut demander d'être délivré de ce que le monde considère comme des maux, mais même de ce qui est regardé comme des biens et qui tourne à notre malheur ou à notre perte. Il y a des biens qui deviennent souvent des maux. Par exemple, l'attachement aux richesses. La richesse, c'est souhaitable, c'est désirable. Ou les honneurs, c'est tout à fait désirable. Mais c'est très dangereux. Et beaucoup d'âmes se perdent du fait des honneurs. Et le catéchisme a toute une liste, là, qui est très intéressante à méditer. La santé, la science, la force, la vie même, si elles doivent être la cause de notre perte, eh bien, il faut demander d'en être délivré. C'est quelque chose qui est paradoxal, mais qui est très vrai, et c'est très profond. Prenons juste un exemple. La course au diplôme. Que de parents aujourd'hui considèrent qu'il est très important pour leurs enfants d'avoir un beau diplôme. Mais si ce beau diplôme mène à une profession qui ensuite entraînera la perte de l'âme, est-ce que c'est vraiment si désirable? Bien sûr que non. C'est un mal dont il faut demander d'être délivré. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir de diplôme. Tout cela, bien sûr, dépend beaucoup du contexte, mais cela nous montre qu'il faut d'abord privilégier le bien des âmes, le vrai bien de notre âme. Alors, avançons. Le catéchisme dit ensuite, comment Dieu nous délivre-t-il du mal? Et là, c'est très bref, c'est très simple. Dieu a quatre manières de nous délivrer du mal. C'est saint Thomas qui a très bien expliqué ça. Le catéchisme reprend les deux premières. D'abord, Dieu écarte ou éloigne les calamités. Nous aurions volontiers compris que c'est uniquement comme ça que Dieu nous délivre du mal. Eh bien, c'est au contraire la manière la moins employée de Dieu. Le fait que les calamités soient tout entières écartées ou éloignées, cela ne sera parfaitement réalisé que quand nous serons au ciel, pour les élus. Mais ici-bas, Dieu nous préserve sans doute de bien des calamités, mais en même temps, il nous en conserve. Et nous ne sommes délivrés que de quelques misères seulement. C'est la pédagogie divine, parce qu'encore une fois, ça nous est bon. La deuxième manière que Dieu a de nous délivrer du mal, c'est en nous donnant des consolations qui nous soutiennent dans l'épreuve. Quand nous sommes éprouvés, souvent Dieu si on le prie, si on le lui demande, si on lui demande d'être délivré du mal, précisément, ben, va nous envoyer des consolations. La troisième manière, c'est en nous encourageant par des bienfaits spirituels. Dieu permet que nous soyons accablés matériellement ou corporellement, mais en échange, car Dieu est parfaitement juste, il va nous donner des secours spirituels beaucoup plus précieux, des grâces, de sainteté, de vertu, et il va nous aider à porter la croix vaillamment. Et puis enfin, et c'est la dernière manière que Dieu a de nous délivrer du mal, pardon, c'est en tirant le bien du mal. C'est la manière propre de faire de Dieu. Et Dieu, généralement, permet le mal que parce qu'il veut précisément en tirer un grand bien, un bien beaucoup plus grand, un bien que nous n'aurions pas pu obtenir sans cela, sans cette épreuve. On a tous des exemples de cela. Et l'histoire de l'Église en a beaucoup aussi. Que de personnes, que de saints, par exemple, se sont convertis et sont devenus saints du fait de grandes épreuves, de santé ou autres. Vous connaissez l'histoire de ce condamné à mort qui avait tué un gendarme et qui a écrit un beau livre, « Lumière sur l'échafaud ». Sa condamnation à mort a été pour lui l'occasion de se convertir. Il s'est vraiment converti et il a découvert le bon Dieu et il a, grâce à cela, sauvé son âme. Donc finalement, bienheureuse peine. Dieu tire le bien du mal. Alors terminons en disant que le mal, comme l'exprime le catéchisme, c'est non seulement les mots, mais à la suite de saint Jean Chrysostome et de saint Augustin, il faut comprendre aussi que c'est le malin, le diable, l'auteur des péchés, l'instigateur de beaucoup des maux qui nous accablent, en vue du péché, car le diable envoie des maux pour nous faire tomber, alors que Dieu permet que nous soyons accablés par des maux, pour au contraire nous hisser vers une sainteté plus grande. Le malin. Et ainsi, c'est très intéressant de le remarquer, le Notre Père commence par le mot Père, Notre Père, le bon Dieu, et termine par le mot mal, malin, le diable. Cela, en quelque sorte, résume notre situation. Nos âmes sont comme l'enjeu d'un combat. Nous sommes placés entre le bon Dieu et le démon. Le bon Dieu veut nos âmes, elles lui appartiennent, par droit de conquête et parce qu'il en est le créateur. Et le diable veut les ravir à Dieu. Voilà notre situation. Et toute notre vie ici-bas se résume dans ce combat. Soit nous sommes à Dieu, soit nous serons au diable. Et il faut bien comprendre cette situation. Non pas d'ailleurs que le bon Dieu et le diable soient comme des égaux. Ce ne sont pas des protagonistes à égalité. Dieu l'emporte infiniment sur le diable, bien évidemment. Mais il faut justement, Dieu veut que nous participions à ce combat et que nous-mêmes, nous ayons bien à cœur d'obéir à Dieu pour éviter de tomber dans les filets du diable. Alors terminons en évoquant cette patience nécessaire dans les mots. Le catéchisme termine par là. Ce sont les dernières pages du catéchisme du Concile de Trente. Il y a encore des petites considérations sur le « Amen » final, mais que nous pourrons réserver pour une fois prochaine. Si Dieu ne nous délivre pas de tous nos maux, comme nous le souhaitons, c'est qu'il veut que nous les supportions pour notre bien, pour nous châtier de nos péchés, pour nous permettre d'expier nos péchés, et aussi pour nous purifier, pour nous hisser, pour nous permettre de devenir plus saints. Alors, loin de nous révolter, loin d'être dans l'indignation ou triste, ou d'accuser Dieu, il faut au contraire apprendre à se soumettre et recourir à Dieu quand l'épreuve et la croix sont trop lourdes. La Sainte Écriture a multiplié les citations pour nous encourager à ces sentiments. Saint Paul dit par exemple « Tous ceux qui veulent vivre avec piété en Jésus-Christ souffriront persécution. » C'est nécessaire. Jésus lui-même le disait aux pèlerins d'Emmaüs « Ne fallait-il pas que le Christ souffrît et qu'il entrât ainsi dans sa gloire ?» Pour entrer dans la gloire, il faut passer par la croix. Les mots sont nécessaires pour nous convertir. Saint Bernard dit qu'il serait honteux que les membres soient délicats sous un chef couronné d'épines. Notre Seigneur, notre chef, est couronné d'épines et nous, nous voudrions ne souffrir absolument rien. C'est impensable. Alors demandons à la Vierge Marie qu'elle nous aide à bien porter nos croix et à bien accepter les maux que le bon Dieu veut pour nous, et à prier avec beaucoup de ferveur, d'ardeur, pour être délivrés des vrais maux, de tous ces maux qui accablent la Sainte Église et le monde, et qui empêchent les âmes de se sauver. au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.